Bienvenue dans Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, Dig Dig Diggers vous fait voyager dans la francophonie internationale en vous proposant un arrêt par le Québec et la découverte du nouvel album Oniromancie de la Montréalaise Laurence Anne. L'artiste sera au micro de Marcus de Radioactive à Saint-Brieuc pour nous parler de son troisième effort sorti chez Bosound. Laurence Anne, que l'on retrouvera aussi dans l'extrait de live de la fin de cette émission, puisqu'elle fut invitée sur scène par le compositeur Phelp, qui se produisit au Festival International de Jazz à Montréal en cette année 2023, un concert capté par Ben de la radio RCV à Lille. Mais dans un premier temps, direction la Belgique, avec le projet Glock, qui est au micro de Morgan de la radio Primitive à Reims, le Quatuor nous présente leur album « Les gens passent et le temps reste », sorti sur le label Augury.
Salut les diggers! Je suis Morgane de la radio Ferrarock, radio primitive, basée à Reims. Cette semaine, je vous propose d'écouter mon entretien avec la formation belge Glock. Ils sortent le 15 septembre leur premier album intitulé « Les gens passent, le temps reste ». Et ils vont vous en dire un peu plus.
Bah du coup, moi c'est Louis, j'écris les textes et je fais les voix.
Moi c'est Adrien, donc je fais partie du groupe en tant que compositeur, donc je produis des prods et aussi je joue en live des claviers, guitares, ce genre de choses.
Alors ensuite on a Lucas, le frère de Louis, qui pareil plutôt s'occupe de la musique. Et Baptiste, qui n'a pas pu être présent ce matin, qui complète le quatrième membre du groupe, qui pareil s'occupe de la musique pour le live, pour la compo et aussi des visuels de tout ce qui a été tourné autour de l'album.
Est-ce que vous voulez bien nous rappeler, au moins pour le départ, l'idée que vous aviez en tête en montant la formation, ce que vous souhaitiez faire, en tout cas au démarrage, et peut-être où vous en êtes aujourd'hui?
Au tout début, Adrien et moi, on a commencé et c'était principalement moi j'écrivais des textes dans mon coin et je cherchais quelqu'un qui faisait des prods et lui faisait ça. Du coup on a commencé entre guillemets simplement autour de ça et Lucas et Baptiste assez vite nous ont rejoints, où ils suivaient un peu ce qu'on faisait, on leur faisait écouter nos maquettes et à ce moment-là l'objectif a directement été, quand ils nous ont rejoints, de trouver un compromis entre moi qui écoutais beaucoup de rap et aimait bien ça et avait envie d'un peu m'orienter là-dessus, et eux qui étaient pas du tout de ce monde-là, qui en écoutaient très peu et qui du coup avaient totalement d'autres goûts. Donc au tout début du projet, ça a été trouver un équilibre entre leurs goûts et les miens pour trouver quelque chose qui marchait. Et en fait, en partant de ça, la musique électronique s'est vite présenté à nous comme un bon compromis. On a fait que travailler là-dessus pour trouver le meilleur équilibre entre la voix et les prods dans cet univers-là.
Et dès le début, comment est-ce qu'il y a eu des habitudes de fonctionnement? Toi, tu cherchais de la prod, tu disais au tout début, c'est-à-dire que l'idée c'était d'écrire sans la prod et d'articuler une prod dessus. Et est-ce que vous fonctionnez toujours comme ça? Ou est-ce que c'est l'inverse?
Au tout début, c'était un peu hasardeux. Ça allait un peu dans tous les sens, la manière de faire des morceaux. Et puis là, sur cet album, ça s'est quand même majoritairement fait en commençant par la prod, où chacun m'envoyait des prods et puis je testais des trucs dessus et on travaillait dans ce sens-là. Sur l'album qui arrive, je pense que la majorité des morceaux, si pas tous, ont été faits comme ça.
Est-ce qu'on peut parler du titre de cet album qui sortira le 15 septembre? Les gens passent, le temps reste. Pourquoi ce titre? Qu'est-ce que ça signifiait pour vous et pourquoi vous en êtes arrivé à le choisir, ce titre?
En fait, ça a été assez rapide et évident. À la base, c'était un morceau qu'on avait fait, qui était potentiellement sur l'album et qui au final n'y est pas. Mais la phrase, on trouvait qu'elle résumait bien ce qu'on voulait exprimer dans l'album et le rapport au temps et au vécu et aux souvenirs globalement. On trouvait que c'était ce qui englobait le mieux l'album et c'est apparu assez vite comme une évidence. Ça n'a pas été trop prise de tête. Et ça s'est fait comme ça en fait. Simplement, la phrase a été trouvée et directement on s'est dit, ce sera le nom du projet.
Donc c'est l'idée que nous on n'est pas grand chose au final.
Non, c'est plus l'idée, je crois, du passage des gens dans nos vies globalement et des traces qui laissent, peu importe qu'ils soient là ou plus là après. Il y a toujours des choses. Des moments qui marquent des choses qui nous restent de toutes ces relations, et comme c'est un album qui parle aussi beaucoup de pertes, de deuil, c'était important de parler de ça. C'est pas parce que quelqu'un n'est plus là que il y a plus rien à cette personne dans nos vies.
C'est marrant, pourquoi vous avez décidé d'avoir ce fil rouge? T'as conscience du pourquoi, ou c'est venu un peu comme ça aussi?
C'est venu un peu comme ça, j'ai l'impression. On a fait quelques morceaux qui tournaient autour de ça et comme le nom de l'album, ça s'est mis un peu naturellement et on s'est dit assez tôt dans le processus que on allait le faire tourner autour de ça, mais sans vraiment le chercher. En fait, il y a eu quelques morceaux un peu squelettes dans l'album et après ça s'est complété assez facilement sans qu'on cherche à écrire là-dessus forcément.
Moi, je trouve que dans les textes, il y a beaucoup de remise en question. C'est assez intime, et peut-être que je me trompe, hein, parce que ça peut tout à fait être peut-être un personnage de scène que tu décris, et pas forcément toi-même et tes sentiments. Mais j'ai la sensation que à travers ce que t'écris, tu t'exposes aussi vachement.
Ouais, je pense, mais je pense aussi qu'il y a plein de choses qui sont intimes sans que forcément elles relèvent d'un vécu précis ou d'un événement précis. Les réflexions peuvent être intimes sans être liées à un événement quelconque. Et pour la remise en question, je pense que c'était important de par le thème global de l'album, qui exprime des périodes de doute de toute façon. Donc c'était nécessaire, je pense, dans plusieurs morceaux d'avoir ça qui revient. Hey, hey, hey.
Et si on s'écoutait maintenant un extrait du premier album de Glauque, Les gens passent, le temps reste.
Bleu de moi, bleu de toi, bleu de moi, bleu de toi encore. Bleu de moi, bleu de toi, bleu de moi, bleu de toi encore. Rempli de certitude sur ta nature profonde et la haine que je te porte. On a la paix qu'on se donne, temps de guerre trop long comme un livre de Tolstoï, trop d'insomnie. Maintenant je distingue les nuances de noir, les fantasmes dus à l'alcool. Dans nos rapports et leur tiédeur, une légère flamme brûle encore. Tu m'as dit toi et moi c'est impossible, nu dans les draps de la chambre d'hôtel. T'as loué sans me le dire, les contradictions dans ton caractère indocile. Mémoire de peau, j'ai les marques, tous les blue moons de son morne. Bleu de moi, bleu de toi, bleu de moi, bleu de toi, étrange. Bleu de moi, bleu de toi, bleu de moi, bleu de toi, étrangle. Bleu de moi, bleu de toi, bleu de moi, bleu de toi encore. Bleu de moi, bleu de toi, bleu de moi, bleu de toi encore. Bleu de moi, bleu de toi, bleu de moi, bleu de toi encore. Se revoir en soirée dans un monde en couleur, en sachant qu'on a déjà avalé les couleuvres, qu'on voyait déjà le film en noir et blanc. Je te connais par corps, ta tête qui tremble, jouer à qui sera le plus méchant. Peut-être même que t'as déjà brûlé les bandes, peut-être même que tu sortiras gagnante. Là on est à qui tient le plus son rôle, ça ressemblait à quoi notre vie en rose.
parler caché toutes ses attentes. Savoir à qui toutes mes avances. Variés acteurs et tentations. Variés valeurs et plans d'action. Ignorance, feinte et regard long. Sourire en coin, contrefaçon. Désir passé, se revoir passe-temps. Désir passé, toujours partant. Pleu de moi, pleu de toi.
C'était le titre « Bleu » du groupe Glauk, extrait de leur premier album.
Et du coup, cet album,
retournons désormais auprès d'eux pour en savoir plus.
Au niveau de l'enregistrement, de la composition, comment ça s'est articulé un petit peu dans le temps? Est-ce que vous arriveriez à nous préciser tout ça?
Ça a pris quand même un bon petit temps. Certains morceaux sont là quand même depuis 3 ans, voire plus. En tout cas, les premières maquettes de certains morceaux sont arrivées très tôt. Et ce fil rouge aussi, finalement, ça fait déjà 3 ans qu'il existe, voire plus. Mais la conception a pris un petit temps quand même. Sur 2 ans, on a quand même bien pris le temps de tout produire. En même temps, y a eu le Covid qui nous a un peu permis de faire un stop sur les concerts et donc vraiment se concentrer sur la production et essayer d'un peu évoluer là-dedans. Vu qu'on faisait tout nous-mêmes, on a essayé de faire au mieux et ça a pris du coup pas mal de temps et beaucoup de prise de tête, mais voilà pourquoi ça a pris un petit temps et je sais pas si tu veux ajouter un truc.
Non, je pense que effectivement, nous, dans un sens, la période confinement a été quand même assez productive de ce point de vue-là, puisqu'il y a énormément de maquettes pour l'album qu'on a fait à ce moment-là. Après, il y a eu toute la partie tri, et puis ça a été l'opportunité qu'on n'avait pas eue avant de pouvoir vraiment se poser et d'apprendre, en fait, toutes sortes de compétences, que ça soit en termes de, enfin, je parle plus de la partie musicale ici, mais ouais, en termes de production ou de composition, d'un certain, en fait, il y avait une évolution qu'on avait envie d'avoir par rapport aux premiers EP et à ce qu'on avait fait comme morceau, qui était compliqué, entre guillemets, un bon manque de temps simplement pour pouvoir avancer là-dessus. Et c'est vrai que toute la période du confinement nous a permis vraiment justement de pouvoir faire évoluer la musique vers là où on voulait, que ce soit en termes de mix, de production, de composition, pareil pour les textes. Donc on a pris le temps vraiment de pouvoir avoir, de rechercher beaucoup plus aussi, même ce qu'on imaginait de l'idée du groupe au tout début, donc voilà.
Est-ce que vous êtes quand même entouré, là tu as parlé de mix, mais le mastering et tout ça, ou est-ce que vous êtes quand même, tu me disais, vous êtes pas forcément dans la gestion de tout, mais est-ce que vous vous gardez cela pour vous quand même, ou ça vous le déléguez aussi?
On travaille surtout principalement en fait avec un ami à nous qui est Benoît Petit, qui est notre ingé son live et qui assez naturellement est devenu aussi l'ingé son pour tous les disques qu'on a fait. Et en fait, on a fait énormément d'allers-retours avec lui. Je pense qu'il nous a permis aussi de pouvoir apprendre beaucoup de choses avec lui et d'évoluer et de lui amener des choses aussi qui se rapprochaient au début. Entre guillemets, il y avait beaucoup plus d'implication de sa part en termes de mix. Et puis en fait, en faisant énormément d'allers-retours sur les morceaux, malheureusement pour lui, entre guillemets, qui nous maudissait de temps en temps, mais ça nous a permis aussi de pouvoir lui amener de plus en plus, plus on approchait de la fin de l'album aussi, plus on s'approchait aussi de nous de choses dont on était satisfait déjà de base et où il mettait le coup de plus pour finaliser les morceaux, mais ça nous a permis de travailler différemment, entre guillemets, que d'envoyer à quelqu'un qu'on connaît peut-être pas personnellement, qui va mixer, on va faire quelques retouches, etc. Ici, il y a eu beaucoup plus d'échanges qui nous ont permis d'évoluer, nous aussi, en termes de production et de mix, pour s'approcher, en fait, de la musique qu'on voulait faire, quoi.
On va peut-être parler concert, si vous voulez bien. Il y avait une belle tournée cet été, il y avait pas mal de dates. Je note les Franco, Dour. À la fin de l'année, il y aura ici une belle date chez nous, le Trabendo.
Exactement.
Ça fait un été pas mal chargé. Je me pose beaucoup de questions sur la gestion physique et mentale des artistes de ce genre de marathon d'été. Surtout que bah, y a pas mal d'artistes qui continuent à bosser à côté. Je sais pas si vous, c'est le cas.
C'est notre cas. C'est notre cas.
Ouais. Du coup, je me demandais comment vous viviez tout ça.
Ça devient de plus en plus complexe en termes d'agenda et de logistique. Mais on s'en sort. Mais l'été, ça allait encore. Nous, c'est surtout ici l'automne et toute la tournée autour de l'album qui commence à être bien chargée. Mais c'est aussi ce qui... C'est des périodes un peu charnières, je pense, pour le projet ou pour n'importe quel artiste quand il commence à tourner beaucoup plus. C'est potentiellement ce qui nous permet aussi de trouver un public et de pouvoir se libérer du temps justement au niveau de toutes nos activités complémentaires.
Est-ce qu'on sélectionne une petite chanson de l'album?
Yes, je décide arbitrairement du coup pour au nom des autres. On va choisir le morceau qui sort avec l'album et qui l'accompagne avec un clip le jour de sa sortie, qui s'appelle Rance. C'est un des morceaux les plus importants de l'album, je crois, parce que ça a été un des plus compliqués à finir. Je me demande si c'est même pas le dernier qui a été fini en termes de production. Ouais. C'est un morceau qu'on adorait dès le tout début, qui où la maquette est là depuis 3-4 ans peut-être, et qui a été super dur à finir, mais qu'on voulait absolument sur l'album. Il y avait plein de choses qui musicalement entre la voix et la prod marchaient pas. Mais on me regarde avec un comme si je venais de le détruire mentalement. Mais on l'a toujours voulu de par ce qu'il dégageait. On trouvait que les thèmes qu'il abordait, le texte, la montée crescendo en faisait quelque chose et de très représentatif de notre musique et d'important dans la thématique de l'album. En tout cas, moi, c'est mon morceau préféré de ce projet-là. Et c'est celui qu'on a décidé de sortir en même temps que l'album, donc voilà.
Les gens passent, le temps reste. Le premier album de Glauque est disponible dès le 15 septembre.
J'ai jamais voulu faire rêver personne. Je suis plus drôle dans la vie, pas de bol, la tête dans ma tête. Pour en sortir, coupe le son, moi je peux pas le faire. Si ça va mal, je passe le carrefour. Je me connais par cœur, que des choix par peur. Peur du moment où j'arrête, je manque d'épaisseur. En vrai, je me demande quelle peut bien être ma place. D'abord, je me mets dans de beaux draps, puis je vais laver mon linge. Force à ce que tout ce que j'écrive devienne vrai, j'aurai jamais mon âge. J'ai fait sacrément le ménage, du coup, je la quitte pour de vrai, puis je me creuse les méninges. Je me rends compte que je prends ma vie trop à la légère. Et la musique au sérieux, en vrai, c'est juste que je fais de mieux. Ma vie, c'est un j'aurais pu qui a fini en je fais ce que je veux. Déjà psychopathe, toujours zéro sur le psychopathe. Bientôt zéro sur le pèse personne. J'excelle que dans ce que je perfectionne. Les vies, c'est nuit et jour. La vie c'est nuit, réjouir la vie c'est nuit et jour. Entre les deux faut fuir, proche de l'errance comme Igno à Sano. C'est inhérent comme la cause à la conséquence. Chacun son innocence, chacun son but. Même si tu croiseras quelques fils de pute qui voudront toujours te dire ce qu'il faut dire ou pas dire. Faire ou pas faire, la chair de ma chair. Je te cache cet enfer, tu naîtras jamais. Je suis pas aussi égoïste qu'on le pense. Je veux pas de malentendu. J'ai rien contre toi, mais tu n'étais pas attendu. Tu ne seras jamais. Je veux pas de malentendu. J'ai rien contre toi, mais tu n'étais pas attendu, tu ne seras jamais. Si tu viens quand même au jour, sache que j'exagère la taille des détails. Que mes relations servent à écrire, que mes relations sont qu'un prétexte de taille certes. Si t'es là c'est que papa a pris quelqu'un par la taille.
ou bien par les fesses. J'espère qu'il l'aura pas traité comme du simple bétail. Je veux pas t'apprendre que la famille ce sera toujours la première source de déception. Et que très souvent en prenant le risque d'être père, on devient le contre-exemple de sa conception. J'sais ce que ça fait, je prendrai jamais le risque pour toi. Enfin, plutôt pour moi, pas descendance. Y'aura pas d'acte de naissance, c'est tout ce que j'ai pour ma défense. Moi j'ai eu de la chance mais faut l'apprendre. Ça rend pas plus heureux de pas être cancre. J'étais formé pour les carcans donc j'avais toujours quelqu'un qui avait des attentes. C'est quoi, je crois qu'ils attendent toujours. Depuis que je suis tout jeune, j'ai jamais rendu les gens fiers. J'ai toujours voulu devenir mon grand frère. J'ai toujours grandi dans des parallèles. J'ai toujours contrôlé les paramètres. Vécu dans ce qui était sûr, jamais dans ce qui était potentiel ou hypothétique. Je suis déjà trop paternaliste, c'est une mauvaise idée que j'ai un gosse. Parce que plus je réfléchis, plus j'analyse, plus je dramatise, plus je me rends compte que j'ai des problèmes d'éthique. Grande chance que tu dises que je suis pathétique. Et puis j'ai des tocs, je veux pas transmettre mon mal de l'époque. Te dire que c'est pas bien l'école, tu garderas pas tous tes potes. Compare avec plus dans les poches, même si c'est injuste, on l'oubliera vite. Que la vie c'est pas beau ou moche, ni noir ou blanc. Souvent on s'embrouille pour l'atteindre la couleur, mais on peut pas comprendre toutes les couleurs. Je veux pas de malentendu, j'ai rien contre toi, mais tu n'étais pas attendu, tu ne seras jamais. Je veux pas de malentendu, j'ai rien contre toi, mais tu n'étais pas attendu. Je peux pas te faire accepter l'inacceptable. Les trucs qui dépendent pas que toi qui foire. Ou bien quand t'as trop de poids sur les épaules, trop d'égratignures qui deviennent ténécroses. Y'a rien de pire que croire que t'as toujours le choix, que t'as tout le temps devant toi, qu'y a toujours deux rôles. Le bon et le mauvais. Et si t'as le second, c'est jamais ta faute, y'a de quoi être à faune. En vrai, je crois, tout le monde a le vécu de rappeur. Mais personne parle, y'a plus d'orateur. Y'a aucun rapté, on a juste pas eu le droit d'avoir un effaceur. Parce qu'en plus, le pire, c'est peut-être de réussir. À coup de sacrifice, en tout cas se convaincre. De toute façon, en vrai, c'est quoi réussir si c'est pas sans convaincre. J'attends pas de réponse, c'est pas sans contrainte, y'a aucun plaisir. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai toujours préféré être à sans contrainte. Les contrats de parole, le contrat de pari, les promesses débiles, aux promesses toutes faites. Tu vaux combien? C'est facile d'estimer le prix d'un humain. Je crois très bien la vie de certains contrats, paquets de Lucky, beaucoup trop ne valent rien. Qu'est-ce que je pourrais faire de bien avec un bambin? En voilà une bonne. Tu pourrais peut-être construire Babylone, obtenir 3 ballons d'or, trouver le remède contre la mort, ou bien découvrir comment être un homme. Tu pourrais changer les normes, tu pourrais devenir le meilleur. Le mieux ça reste encore que je t'abandonne. Je crois que je t'évite le pire, je serai jamais un bon père. Je veux pas de malentendu. Je veux pas de malentendu. J'ai rien contre toi, mais tu n'étais pas attendu. Tu ne seras jamais. Je veux pas de malentendu. J'ai rien contre toi, mais tu n'étais pas attendu. Tu ne seras jamais.
À Montréal, il fait toujours un peu plus beau qu'ailleurs et il y a plein de rêves qui se promènent comme ça, qui se baladent tout au long du fleuve Saint-Laurent. Je sais pas si on va du côté du fleuve Saint-Laurent, mais on va surtout au pays des rêves. On va au pays de Laurence Anne qui nous a bien enchanté avec son album Oniromancie. J'ai envie de dire bonsoir parce qu'on peut pas dire bonjour avec un album qui célèbre la nuit.
Oui, bonsoir.
Comment ça va à Montréal aujourd'hui?
Ça va très bien. Quelques jours depuis la sortie de l'album, je suis sur un petit nuage.
Et oui, parce qu'il est sorti du côté de chez vous le 8 septembre sur Bon Sound. C'est vraiment la célébration de la nuit. Dans Oniromancie, il y a onirique, forcément, il y a un peu de rêve. Mancie, ça nous rappelle peut-être des grimoires, même si je te vois beaucoup plus comme une fée que comme une sorcière, personnellement. C'est une vraie célébration et je crois qu'il y a même des singles qui sont sortis à minuit.
Oui, mais en fait, la façon que ça fonctionne, c'est que tout, ben même l'album aussi, mais c'est pas seulement pour moi, je crois que c'est pour tout le monde. Tout, la musique est toujours accessible à partir de minuit, mais j'aimerais bien souligner le fait que c'est à cette heure-là qu'on peut aller l'écouter directement.
C'est une vraie démarche, une véritable démarche. C'est vraiment un album très complet au Oniromancie en termes de projet, puisque même la pochette qui l'accompagne nous rappelle la nuit. C'est aussi un album de collaboration. Je veux bien qu'on commence un peu par là, si tu veux, puisque tu as travaillé avec François Zaidan. Zaidan, peut-être d'ailleurs, comment on le prononce?
Oui, ben nous on prononce Zaidan.
Ok, très bien, on va dire Zaidan, c'est mieux. Un petit mot sur cette collaboration, si tu veux bien.
Oui, ben en fait, François, c'est devenu un grand ami à travers tout ce processus-là. En fait, c'est la première fois aussi que je collabore avec une autre personne pour ce qui est de la composition et de l'arrangement. Habituellement, c'était toujours un processus plus en studio où je me retrouvais avec les musiciens et puis on enregistrait surtout en live. Puis là, avec François, c'était vraiment un travail de longue haleine. Donc, on s'est vu quasiment toutes les semaines pendant un an pour vraiment travailler chaque chanson une à la fois, faire des recherches pour trouver les meilleurs sons, trouver les meilleures mélodies. Donc, vraiment comme un travail plus en profondeur que ce que je faisais à l'habitude. Puis, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que François, c'est un mélomane, en fait. C'est un grand collectionneur de vinyles. Puis il y a des connaissances tellement poussées sur... Il connaît plein d'artistes dont j'ai jamais entendu parler. Donc c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui pour ça.
Et on peut dire, alors on parle de dream pop, on peut parler de beaucoup, beaucoup de choses. Je trouve intéressant ce que tu nous dis sur Françoise Hayden, sur le sens justement de d'avoir une belle collection de vinyles, parce que ça évoque tellement, tellement, j'ai pas vraiment des noms, comme ça je pense à des, je sais pas, des Tangerine Dream, tiens, par moment, parmi les grands anciens, mais beaucoup, beaucoup de choses. Mais j'ai pas envie de parler de psychédélisme, j'ai vraiment envie de parler de monde onirique, parce qu'on est vraiment dans le monde du rêve. C'est important pour toi, ce monde-là?
Oui, vraiment important parce que, en fait, j'accorde beaucoup d'importance à ce dont je rêve. Tu sais, je trouve que il y a une réelle connexion avec le subconscient. Puis, tu sais, souvent, ça m'est arrivé de comprendre des choses à travers mes rêves. Tu sais, juste à nommer quand on fait des rêves récurrents. Puis qu'on vit, on revit à chaque nuit une situation similaire avec des personnes similaires. Puis je vois toujours comme un message, en fait, il y a quelque chose à comprendre. Puis ça m'a aidé justement à faire souvent des changements dans ma vie ou à avoir des conversations avec des gens parce qu'il y avait quelque chose qui devait être adressé, tu sais. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'écouter. C'est un peu comme l'instinct, tu sais.
De Laurence Anne qui est avec nous et qui nous a bien enchanté avec Oniromancie paru chez Bon Sound Records. C'est une fenêtre ouverte un peu à l'image de la pochette de cet album, la fenêtre des rêves. Tu nous disais que le rêve t'influence évidemment et c'est le centre même de cet album. Ça me fait penser moi à Fellini qui notait comme ça chacun de ses rêves et qui s'en servait pour sa matière cinématographique. Est-ce que c'est un exercice auquel tu t'astreins?
Oui, c'est un peu comme ça que ça se passe. Par contre, moi, c'est vraiment plus les ambiances, les paysages, les couleurs qui me restent en tête. Puis c'est pas nécessairement quelque chose que je note sur papier. C'est vraiment, c'est comme si c'est une mémoire émotionnelle. Puis quand j'arrive devant un instrument, puis que je suis prête à composer, ben quand je vais faire des suites d'accords. Mais c'est un peu ces ambiances-là qui me reviennent puis qui deviennent un peu familières à travers la musique, tu sais.
Et justement, puisqu'on parle de musique, effectivement, il y a des nappes, il y a beaucoup, beaucoup d'instruments, sans qu'on arrive vraiment à se faire surnager un instrument plus que les autres sur cet album. Il y a presque comme ça quelque chose de l'ordre de l'égalité en termes d'instruments. Ça, c'est voulu, ça, dans la production?
C'est pas nécessairement réfléchi. Je crois qu'il y a surtout énormément de synthétiseurs. Je pense que c'est sur ça qu'on a un peu basé l'arrangement des chansons. Donc, tu sais, ça passe de vieux Casio des années 80 à des synthétiseurs plus récents. C'est vraiment comme toute une gamme de sons qu'on a été chercher par-ci, par-là. Donc, il y a aussi un petit peu de guitare, mais c'est un peu moins présent que dans les autres albums, je dirais. À part peut-être sur la chanson Citadelle où c'est comme le morceau principal, mais après ça il y a des apparitions de guitare, mais je dirais c'est surtout basé sur les synthétiseurs.
Et ça, c'est un instrument que tu pratiques au quotidien, le synthé?
Oui et non, je le vois vraiment comme un outil d'exploration. C'est moi, j'ai appris la musique un peu à l'oreille, donc c'est pas nécessairement tant des heures et des heures que je passe là-dessus, mais c'est vraiment plus pour trouver comme des sonorités. C'est ça qui m'intéresse, de créer dans le fond des sons, puis d'aller jouer avec ça.
Laurent San, tu disais, cet album, c'est comme un chapitre un peu nouveau dans ta carrière, puisque tu avais déjà sorti des albums précédemment. Celui-là, vraiment, est-ce qu'il marque une rupture? Parce que s'attaquer comme ça à ce monde du rêve, je répète, Oniromancie, c'est évidemment le rêve. C'est un nouveau chapitre, c'est ça?
Oui et non. Dans le sens, c'est un nouveau chapitre parce que je plonge de façon... je plonge plus profondément dans le rêve, mais aussi dans le cauchemar.
Oui.
Donc, il y a un côté beaucoup plus sombre dans cet album-là qui n'était pas nécessairement dans les albums précédents. Par contre, tout ce qui est comme imaginaire, tu sais, dans la thématique de tout ça, c'est quelque chose que j'explorais déjà avant. En fait, depuis le tout début, c'est un peu mon inspiration première. C'est un peu ce qui existe dans l'imaginaire plutôt que ce qui existe dans la réalité, en fait. Mais justement, je pense qu'Oniromancie, c'est vraiment un peu plus dark.
Effectivement, on parle de rêves beaucoup, enfin je parle beaucoup de rêves, mais on peut parler aussi un petit peu de cauchemar. Il y a un titre qu'on écoutera tout à l'heure, si tu veux bien, c'est Vitesse. Vitesse, moi, il m'a un petit peu, alors c'est pas de l'angoisse, mais c'est un petit peu de cet ordre-là quand même.
Oui, oui, ben, quand j'ai composé cette chanson-là, j'étais dans une période d'exploration plutôt cold wave. Je venais de découvrir Martin Dupont avec son album Hot Paradox, que j'ai tout de suite beaucoup aimé. Puis ensuite, il y a Cocteau Twins, je suis une grande fan depuis longtemps.
Je suis pas surpris.
Oui, c'est ça. Donc justement, tu sais, il y a ce côté-là un peu plus angoissant, un peu plus sombre qui se dégage de la musique de ces artistes-là. Puis au début, tu sais, quand j'ai commencé à composer la musique de Vitesse, je me disais que c'était peut-être pas nécessairement une avenue qui allait coller à la musique que je fais. Puis surprenamment, tu sais, ça, je trouve que ça se passe bien. c'est pas si ovni que ça, je trouve, par rapport à ce que je fais. T'sais.
Bon, on l'écoute. C'est signé Laurent San, et là c'est peut-être la partie un petit peu cauchemardesque de cet album Oniromancie que nous célébrons cette semaine sur les radios de la Ferrarock. Laurent San qui est avec nous depuis Montréal. Oui, il fait un peu plus peur, hein, celui-là.
Oui, c'est vraiment le plus profond du cauchemar.
Et puis bah, j'espère que t'as dû te réveiller en sueur avec une histoire pareille.
Ah oui, quelquefois.
Un petit mot sur quelques clips qui accompagnent aussi cet album. D'abord, il y a le titre, l'album titre, hein, le titre de cet album que tu as aussi clippé, donc Oniromancie. Il y en a plusieurs. Là encore, un univers assez singulier en termes d'image, avec ce bleu qui accompagne cet album, ou un peu bleu nuit aussi. Comment ça s'est passé, la réalisation de ces clips?
Oui, ben en fait, pour cet album-là, on s'est lancé plus dans la mode du court vidéo qu'on place en loop. Puis l'idée, c'était vraiment de pouvoir créer une identité visuelle pour chaque pièce de l'album. Pour faire tout ça, j'ai collaboré avec une autre artiste qui s'appelle Anna Arrobas, qui elle aussi, par ailleurs, fait de la musique. Elle a son propre projet. Puis en fait... elle est photographe aussi, puis donc c'est elle un peu qui m'a aidée à donner vie un peu à tous ces tableaux que j'avais en tête pour chaque pièce. Puis donc justement, tu sais, vitesse, c'est des bougies qu'on voit, les flammes sur les bougies qui dansent un peu de chaque côté, puis qui s'éteignent soudainement, puis on voit la fumée qui se dissipe. Donc c'est vraiment, l'idée c'était d'aller chercher des tableaux qui gardent cette idée-là du rêve justement.
Effectivement, et puis il y en a un que je trouve particulièrement onirique, c'est polymorphe. Alors c'est presque un plan fixe comme ça, avec comment on pourrait dire, comme si tu étais entouré d'un, comme si on te voyait pardon à travers un Judas ou quelque chose comme ça, et ça reste un petit peu inquiétant, un petit peu comme ça. Tu ne prononces pratiquement pas un mot, enfin ton visage est presque inexpressif. Ouais, le théâtre, l'aspect un peu cinématographique, c'est quelque chose qui compte chez Laurent Sane.
Oui, je trouve que, en fait, l'interprétation visuelle de la musique est tout aussi importante que l'interprétation musicale. Donc, même sur scène aussi, j'ai toujours aimé porter des costumes ou avoir une certaine mise en scène qui aide à justement vivre la musique pleinement, t'sais.
C'est votre côté shakespearien ouais. Parce qu'on sait que il y a un peu d'anglophone quand même du côté de Montréal. Oui, il y a quelque chose d'un petit peu de ça, hein, de shakespearien finalement chez toi aussi.
Ben oui, j'ai un petit côté dramatique, je crois. Oui, mais c'est ça. Après, je suis pas non plus tant que ça dans la théâtralité. Tu sais, il y a pas de grands coups de théâtre. Mais j'aime bien qu'il y ait une certaine magie. Là.
Ouais. Bah c'est très bien. Et puis ça nous rappelle aussi, bah, furieusement, je sais pas, des gens, des artistes qui ont pu beaucoup marquer leur époque, comme Kate Bush ou des gens comme ça. Mmh. Justement, la question un peu rituelle, qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais plus jeune? Qu'est-ce qui t'a amené à embraser la carrière comme ça de musicienne?
Waouh! En fait, j'ai écouté vraiment de tout. C'est dur de mettre le doigt exactement sur quoi, parce que j'ai commencé à chanter quand j'étais plutôt jeune. Puis, tu sais, c'est seulement parce que mes parents avaient acheté une machine de karaoké.
D'accord.
Tu sais, la petite machine avec un écran. Donc, on achetait des CD. Tu sais, je pense que j'ai chanté au début du Avril Lavigne. Tu sais, ça n'a pas du tout à part avec ce que je fais aujourd'hui. Mais...
qui est un peu théâtral elle-même, hein, d'ailleurs, Avril Lavigne.
Oui, ben c'est ça. Tu sais, elle a aussi son côté un peu personnage. Puis aussi, c'est ça, je pense que c'était mon introduction à la musique pop. J'ai écouté beaucoup de musique pop dans ma jeunesse. Puis après, c'est un peu plus tard que j'ai découvert, en fait, tout ce qui est dans la marge. Après, tu sais, de mentionner,
c'est jamais facile. J'ai pensé, moi, facile, de temps en temps à des mélodies Echo Chambers, des artistes un petit peu comme ça.
Oui.
On y retrouve d'ailleurs la production de ta voix, elle est aussi, on sent qu'il y a un véritable boulot, hein, sur les reverbs, sur les gates, enfin, je suis pas un grand spécialiste, mais on sent que la voix a vraiment été traitée. Ça a été un enjeu de cet album.
Oui, ben c'était vraiment important pour moi de justement aller chercher des effets pour créer, je sais pas exactement comment le décrire, mais c'est que j'avais envie, quand je faisais le mix de cet album-là, de sortir justement des cadres pop, puis d'aller chercher des effets qui créent quelque chose de nouveau, puis qui vont vraiment ailleurs. Donc c'était voulu d'aller mettre vraiment beaucoup d'effets, puis d'un peu noyer la voix aussi, de faire en sorte que dans certaines chansons, ça devienne vraiment plus comme un instrument, plutôt que de mettre la voix vraiment très très forte à l'avant. Donc c'était vraiment cette idée-là de faire quelque chose de différent.
Et même si tu utilises plusieurs langues, et ça aussi c'est l'un des axes forts de cet album. Tout à l'heure on a écouté Flores, donc en espagnol il y a du français, il y a aussi de l'anglais. Ça aussi c'est un véritable acte de liberté, je trouve.
Oui, ben c'est une autre façon d'expérimenter, je trouve, dans la composition, parce que en plus d'avoir une autre sonorité, tu sais, la voix change de couleur quand on change de langue. Ben c'est toute la poésie qui est différente. Il y a certaines choses que je peux arriver à dire en espagnol que si je chantais ça en français, ça sonnerait pas très bien. Tu sais, ça serait peut-être trop direct ou trop quétaine, comme on dit ici. Mais en fait, c'est ça, j'aime la liberté que ça me donne, puis le pouvoir poétique qui est derrière tout ça aussi.
T'as prononcé, Laurence Anne, deux mots qui accompagnent à merveille cette oniromancie. C'est liberté, c'est poésie, et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ce... un peu un grimoire quand même, c'est quand même un grand livre, oniromancie. Et on y trouve tout ça. Mais moi, j'ai envie de te dire bravo pour cet album, parce qu'il nous a beaucoup plu sur la Ferrarock. Évidemment, on va continuer à le diffuser. Il va falloir venir nous voir de l'autre côté de l'Atlantique, madame.
Ben, c'est dans les plans. Hein.
Très bien. Parce que voir Laurence Anne sur scène célébrer cet album, ça doit être quelque chose.
Oui, ben justement, on a fait le spectacle avec les musiciens pour la première fois il y a environ 2 semaines pour le SME, le Festival de musique émergente de Rouyn-Noranda.
Où la Ferrarock était présente d'ailleurs.
Oui, bon, mais justement, on a eu d'excellents retours par rapport à ce premier spectacle-là. Puis justement, ce n'était que le premier, donc ça va devenir de mieux en mieux, j'imagine, avec le temps aussi, à force de le jouer. Donc c'est ça, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Puis c'est un peu comme un soulagement aussi, tu sais, quand tu sors un album, ben, de voir comment ça va se transposer sur scène. Puis j'ai vraiment adoré l'expérience, puis je pense que ça fonctionne super bien en live autant que sur l'album. Donc j'ai bien hâte de vous présenter ça.
En ce qui est avec Préserver le cœur, un titre qui va très bien avec tout ce qu'on vient de dire. Merci beaucoup, Laurence Anne.
Merci beaucoup.
Toujours dans Dig Dig Diggers, et l'on reste en compagnie de Laurence Anne. L'artiste a participé au concert de Phelp lors de sa prestation au Festival International de Jazz à Montréal, dont nous allons écouter un extrait à présent.
Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui nous sommes là, mais il y a aussi une grande amie à moi. Faites du bruit pour Laurence Anne, s'il vous plaît.
Constitution complexe, être en plein sur son ex, déguisé jusqu'au Mexique, la comète en abdique, lexique jurassique, problématique cryptique. Accélérer. ciel on m'exhume. Succès planétaire posthume. J'ai des ailes, mais je ne vole pas. J'étais là avant que le doute se plane. Risque.
Thank you.
Merci, c'était des vieux hits de Bandcamp. All right. Let's do Jean.
Oh.
venez d'écouter Diggers sur votre radio Ferrarock. Une émission qui nous a permis de découvrir l'album Les gens passent, le temps reste du groupe belge Glauque, sorti chez Augury. Puis, c'était en compagnie de l'artiste montréalaise Laurence Anne que nous avons abordé Oniromancie, paru sur le label Bonsoon. Montréal, où nous sommes restés pour profiter d'un extrait du live de Felp qui s'y produisit à l'occasion de sa venue au Festival international de jazz de Montréal. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes Ferrarock dans l'émission Diggers.